Alors bonjour Barbara, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Merci l'équipe de m'avoir invité et c'est avec grand plaisir que je vais aujourd'hui essayer de mettre un peu de gaieté dans ce monde de brut. Altruiste, prêt à soutenir mon prochain, j'aurais autrefois volontiers défendu la veuve et l'orphelin. Mais aujourd'hui, c'est une cause bien plus dramatique qui m'anime. Je m'explique. Issus de milieux divers, ils n'ont pas la vie facile. Peu, voire pas aimés, et ce depuis leur plus tendre enfance. Ils sont les boucs émissaires de tout un chacun. Leur défiance auprès de leur père et leur déficience musculaire aiguë en font des parias de leur espèce. Rarement pourvus d'un trait physique avantageux qui les rendrait désirables auprès des membres du sexe opposé, leur reproduction est limitée, voire inquiétante. Aujourd'hui, je tiens à leur adresser un mot car je suis mu par l'idée de lever le voile sur leur quotidien. Car oui, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, au travers de cette présentation, je vais bien sûr parler des chercheurs en informatique. Très gros ou très maigre, des cheveux gras et un humour qui ne mettrait même pas la plus moche à moitié dans leur lit, l'image du chercheur en informatique n'a que peu évolué ces dernières années. Cloîtré derrière leur PC, le commun des mortels aime à croire que le chercheur en informatique pisse du code toute la journée. Face à tous ces clichés, je tiens à dire haut et fort que ce ne sont que d'odieuses balivernes. Mais ce n'est pas dans ces légendes que notre ego est le plus touché. Car là où le bas blesse, c'est lorsqu'on nous pose cette question fatale, et ce avec le plus grand sérieux du monde. Mais on fait de la recherche en informatique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en informatique, on est un peu les Barney Stinson ou les Chandler Bing. On traîne avec nous, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. Alors je n'ai pas le temps de répondre à cette question, mais je vais vous donner quelques pistes. Alors faire de la recherche en informatique, ce n'est pas réparer les imprimantes ou les box internet. Créer des logiciels ou hacker des sites, comme beaucoup semblent s'imaginer, ne fait pas non plus partie de notre quotidien. L'informatique, ce n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes. Alors si cette phrase vous a plu, c'est normal, elle n'est pas de moi. Mais alors la recherche informatique, pourquoi personne n'y comprend rien ? Alors, comme toute science qui se respecte, parce que oui, j'ose les tacles gratuits, en informatique, il y a la partie théorique et la partie pratique. Alors, la partie théorique, je suis d'accord avec vous, c'est une science un peu obscure et, a priori, ça ne sert pas à grand-chose. La partie appliquée, par contre, et qui devrait parler à tout le monde, on entend partout et tout le temps parler de big data, de cybersécurité ou d'intelligence artificielle. Et pourtant, on est à peine capable d'expliquer ce que c'est. Alors pour attaquer la conclusion de ce billet et vous donner quelques billes pour briller demain à la machine à café, je vous pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on arrive à vulgariser par exemple la présence de trous noirs dans l'univers, mais on n'est toujours pas foutu d'expliquer le plus simple des algorithmes ? Est-ce que l'informatique fait peur ? J'ai envie de dire peut-être. Peut-être qu'il y a une réticence non pas à pouvoir, mais à vouloir la comprendre et nous comprendre. Alors faites-moi plaisir. Ça suffit de se cacher derrière les conneries du genre « l'informatique, c'est pas fait pour moi » ou « dès que je touche un PC, ça plante ». L'informatique, vous savez, c'est un peu comme un informaticien. À première vue, ça ressemble à rien, mais quand on s'y intéresse un tant soit peu, c'est que de l'amour. Merci à tous.
Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Barbara à l'antenne de Radio Campus pour une nouvelle édition de Quoi de neuf Doc, l'émission de vulgarisation scientifique de l'association Doctovergne. Oui, bien que ce soir ce soit la fête de la musique, nous n'allons pas parler musique dans cette émission, mais bien de science. Je vous rassure, c'est pas mal non plus. Et côté musique, vous pourrez vous rattraper ce soir sans problème. Alors, pour démarrer cette émission, vous avez eu le plaisir d'écouter le billet d'humeur de Benjamin Dalmas, doctorant en informatique. Et oui, même en informatique, on peut faire des thèses. Je pense que ça aussi, les auditeurs ne le savaient peut-être pas. Et malgré son image parfois mauvaise et pleine de préjugés, les doctorants en informatique ont donc parfois de l'humour. En tout cas, c'est ce qu'il a essayé de vous montrer ce soir. Bah oui, écoute, faut bien te retrouver des qualités. Et en tout cas, pour en savoir plus sur les informaticiens, il faudrait qu'ils acceptent plus facilement de se déplacer à la radio, parce que ça n'a pas été facile de le faire venir. Donc tu vois, il y a aussi une partie du problème qui est là. Et je suis sûre, pour les auditeurs, ceux qui veulent en savoir plus, il faudrait qu'ils reviennent pour un 8 minutes avec. Et là, moi j'ai envie de dire, voilà, n'hésitez pas à commenter sous le podcast ou sous les vidéos pour qu'ils viennent. Et en plus, non seulement il a de l'humour, ce jeune homme, mais accompagné de toute une équipe dont il fait partie et dans laquelle on retrouve aussi Lucie et Antoine, habitués de cette émission, il participe à un projet associatif regroupant Doctovergne, l'ADNA et l'Utopie, le projet Retour à l'école. Ce projet ayant pour objet d'amener la science à l'école pendant les temps périscolaires sera l'objet du Focus Actu du jour et nous permettra de discuter ensemble de l'accès à la science, à la culture et même plus encore de l'éducation à la science et de l'éducation à la culture. Après ce temps de débat, nous découvrirons une nouvelle chronique qui sera présente à la rentrée pour la saison prochaine de Quoi de Neuf Doc. Il s'agit de la Minute Économie Sociale et Solidaire. Cette chronique sera présentée par Geoffrey Vola, doctorant en sciences de l'information et de la communication. Il vous en dit plus tout à l'heure, soyez patients. Ensuite, nous retrouverons la belle Lucie Poulet, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, pour une nouvelle chronique Space News. Cette doctorante en génie des procédés a souhaité ne pas faire comme tout le monde. Elle ne nous parlera donc pas du retour de Thomas Pesquet, mais de quelque chose de bien différent. Elle aborde le pain spatial. Alors, je ne sais pas comment Thomas doit le prendre, mais nous espérons que le pain soit suffisamment intéressant pour mériter d'être abordé ce soir à la place de Thomas Pesquet. Lucie, j'avoue, j'avais envie de te mettre un tout petit peu la pression dès le début de l'émission. Enfin, pour terminer cette émission, Olivier Carvin, doctorant en sciences économiques, reprendra du service pour le 8 minutes avec, probablement le dernier de la saison. Et pour cette interview, il reçoit Iris Ezouan, doctorante en écologie. Elle vous ouvrira la porte de ses recherches pour que vous puissiez, comme toujours, en savoir plus sur ce qui se passe dans les laboratoires clermontois. En attendant, je vous propose de recevoir tout de suite nos trois loustiques de retour à l'école pour un focus actu que j'espère dynamique.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward.
Doctorants et docteurs, voient l'actu.
We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it.
C'est focus actu.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Alors, bonsoir à tous les trois. Alors, vu qu'on est nombreux, il faut le temps de s'installer. Benjamin reprend ses esprits, voyez l'informatique, bon, hein, faut pas y aller trop vite quand même. Du coup, bon, alors vous participez tous les trois au
tous
projet.
Les quatre.
Ah, tous les quatre, Geoffrey, t'en fais partie aussi.
Et bien sûr.
Ouais, c'est vrai, je t'avais oublié.
On a pris l'élite.
On a pris l'élite. Bah, pourquoi j'en fais pas partie?
On t'a demandé.
C'est justement pour
t'étais
ça.
T'étais pas dispo.
Il paraît que tu signes à la fin de l'émission.
On va voir ce que toi tu signes. Bref, revenons à notre petit projet. Donc, retour à l'école. Lequel de vous quatre qui nous présente peut-être la naissance du projet et en quoi il consiste? Battez-vous pas, surtout.
Ouais.
Hein,
bah, j'y vais. Alors, l'idée, c'était qu'on avait tous... donc, on est entre doctorants et étudiants dans ce projet et qu'on a tous, on se connaît tous, plus ou moins, avec des passions, des domaines différents. Et bah, l'idée première, c'était de pouvoir partager avec les gamins ce qui nous anime. Donc, l'idée... comment ? Qu'est-ce qu'elle dit ?
Les enfants.
Alors, ouais. Voilà, voilà. Lucie expliquera pourquoi les enfants l'animent. Et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, donc le but c'est de partager un peu nos connaissances et en fait de co-construire un projet tous ensemble. On a des domaines différents et voilà, on arrive même à bosser avec des informaticiens du coup pour reprendre un peu le thème. Donc c'est bien qu'on a réussi quelque chose de grand. Et l'idée c'est de pouvoir voilà, chacun mettre ses compétences autour d'un projet et de montrer que tout gros projet a besoin de compétences, de sensibilité multiples pour aboutir, que ce soit chez nous ou chez les gamins.
Alors, de manière pratique, votre projet...
Vous êtes terrible.
Oui, alors, ça va être compliqué. Donc, ouais. Ce soir, il va falloir les canaliser. Donc, moi, je reviens d'un point de vue pratique. Donc, ce projet, il est né à la rentrée 2016-2017.
Exactement.
Vous intervenez dans combien d'écoles, avec quel public pour l'instant?
On est sur deux écoles à Aubière, entre le CE2 et le CM2.
D'accord. Et du coup, pendant le temps périscolaire, c'est ça?
Exactement.
Entre midi et deux, ouais.
Et à quelle fréquence? Ah oui.
Et à quelle fréquence? Une fois par semaine dans chaque école.
Ouais.
Et donc le lundi midi sur une première école et le jeudi après-midi midi sur le deuxième école.
Vous avez vu, ils vous donnent même rendez-vous, ils vous donnent les heures.
C'est ça. Réservez vos lundis et jeudis pour l'année prochaine, messieurs, dames.
Non, de manière plus pratique, vous suivez les mêmes enfants toute l'année?
Non. On a...
Merci pour cette réponse.
Non.
Non, en fait... ils ont des cycles sur leurs activités du midi, donc on a eu un groupe de janvier à mars et dans chaque école, et un groupe dans chaque école de mars à juin. Donc ça fait 4 groupes en tout.
Très bien. Et du coup, vous avez construit donc un projet avec eux. Il me semble, ça va connaître le thème, mais peut-être que vous pourriez le donner aux auditeurs qui n'ont pas encore entendu parler du projet.
Alors du coup, le projet de cette année, c'est de préparer un voyage sur Mars. Et alors le but de ce projet, c'est d'arriver à réunir un ensemble de domaines, de disciplines, alors que ce soit l'informatique.
Allez, oui.
Allez.
Et alors l'informatique servait à quoi pour aller sur Mars?
Qu'on le croit ou non, on a besoin d'informatique. Alors pourquoi? On va le voir. Il va falloir leur expliquer comment aller sur Mars, la construction de fusées, où est-ce qu'on... Mars, c'est où dans le système? Une fois qu'on est sur Mars, il va falloir y habiter, il va falloir survivre, il va falloir se nourrir. Pour se nourrir, Il va falloir donc connaître un petit peu tout ce qui est de l'écologie, de la biologie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de biologistes avec nous. Ensuite, il va falloir automatiser tout ce qui est récolte, expérience. Donc
ça,
on a besoin d'électricité et d'informatique dans tout ça. Et donc le but, c'est de les rassembler autour d'un projet commun avec tout un tas de disciplines qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir au quotidien à l'école, avec des gens qui maîtrisons ces techniques-là, ces disciplines, et pour leur faire découvrir. Le but, ce n'est pas de faire d'eux des astronautes, mais c'est de leur inculquer une petite culture.
Alors, si je résume un peu, c'est un projet transdisciplinaire d'éducation à la culture scientifique pour les enfants.
Oui, et puis l'éducation scientifique au sens large, c'est vrai qu'on était il y avait du génie civil, de l'écologie en gros, du spatial et j'oublie quelqu'un. Et de l'informatique, pardon. Mais après, c'est parce que le groupe de bénévoles s'est constitué comme ça. L'idée, c'est qu'on ait aussi des sciences humaines, des sciences littéraires, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin.
Sociales.
Sociales. Et que tout ça vienne agrémenter un projet un peu plus conséquent, parce que finalement le thème est assez large normalement pour que justement on puisse intégrer tous ces projets-là, toutes ces disciplines-là.
Pardon.
Non, j'allais dire, du coup, c'est pas forcément le même thème tous les ans.
Non, ça va changer. Mais là, typiquement, donc on a fait préparer un voyage sur Mars, on a trouvé personne en histoire ou littérature, alors qu'on aurait pu faire un super thème sur tout ce qui est les constellations, parce que les constellations, elles ont toutes des noms qui sont tirés de la mythologie grecque, donc il y avait plein de choses à faire sur les histoires et tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que sur un même thème, on peut regrouper plusieurs disciplines, et c'est leur montrer que la multidisciplinarité, c'est la clé de tout projet, que ils ont besoin de bosser en équipe, parce que c'est ce qu'on a fait, et puis on leur demande de réfléchir un minimum, on leur donne pas les solutions tout de suite en général.
D'accord, donc on va dire un apprentissage à la réflexion au-delà d'un apprentissage
on veut que ça passe par quand ils apprennent quelque chose, on veut que ça passe par les mains, que ce soit quelque chose de pratique, voilà, parce que c'est comme ça qu'ils arriveront mieux à comprendre les choses.
D'accord. C'est de l'éduc-pop, quoi, en gros, si on veut revenir.
L'éducation populaire pour les néophytes.
Voilà. Ouais, c'est, je dirais même que c'est aussi des pédagogies actives, c'est-à-dire que ce que disait Lucie, c'est que l'idée de mettre l'enfant en action, c'est l'idée de le mettre en action à la fois par le raisonnement et par la pratique. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'abord de le faire réfléchir et ensuite de mettre en pratique.
Alors, à titre, avant peut-être de revenir un peu sur le projet, mais à titre personnel, alors, qu'est-ce que ça apporte aux enfants, d'après vous? Et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Parce que j'imagine que c'est quand même dans les deux sens.
Ah oui, c'est dans les deux sens.
Les réponses de Lucie ce soir sont toutes
inefficaces.
Elle a raison. Non, mais pour les gamins, je pense qu'ils ont vraiment appris à découvrir effectivement certains domaines. Et pourquoi on pense pas, pourquoi Thomas Pesquet, tous ceux qui travaillent dans le spatial, c'est pas que connaître les planètes, c'est que derrière il y a tout un tas de choses qui se réfléchissent en amont, quoi. Parce que une fois qu'on sera sur Mars, faut bouffer, merde. Bon, mais faut quand même être capable justement de l'avoir géré, ce problème-là. Et de montrer qu'on peut tous travailler ensemble, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un esprit d'équipe et de cohésion que ces gamins, ils ont réussi à trouver, je pense, avec ces enfants. Oui, c'est vrai. Sophie, excusez-moi si vous m'écoutez. sinon, il y a aussi le fait que... je voulais dire un truc et je ne me souviens plus. C'est vraiment la curiosité. Après, on sait tous qu'ils ne vont pas forcément rêver d'être astronautes après ça, ou de faire de l'écologie, ou une cabane,
ou
de l'informatique. Ouais. Quoique, je ne sais pas, vraiment, ils se sont régalés dessus. Mais l'idée, c'est qu'ils se disent, on peut faire ces petites choses-là et qu'ils puissent s'en souvenir. Quoi. S'il y a un truc qui les a marqués, avec des trucs tout simples, on peut faire ces petites activités, éveiller leur curiosité, vraiment.
Ouais, c'est beaucoup ça.
Et qu'ils soient capables de le faire. Après, personnellement, moi, à part du kiff, mais c'est déjà pas mal, et c'est déjà beaucoup, je pense. Je pense que... C'est vraiment ce que je recherchais aussi. Donc,
Moi, je pense que ça nous a aidé à trouver les mots justes pour expliquer des notions compliquées aussi. Parce que quand on fait de la vulgarisation, on a tendance à avoir en général des adultes en face de nous. Et là, c'est des enfants. Et les enfants, dès qu'ils ne comprennent pas, ils le disent et ils osent le dire. En me disant, non, mais alors là, j'ai rien du tout compris à ce que tu viens d'expliquer. Donc tu recommences. Et ça nous est arrivé de recommencer 3-4 fois jusqu'à trouver la bonne manière de leur expliquer la bonne image pour des notions qui étaient un peu compliquées.
Mmh. Comme le dit Lucie, on a l'habitude de vulgariser face à un public, alors soit scientifique, pseudo-scientifique, mais qui reste adulte. Et c'est vrai que travailler avec des enfants, ça nous fait travailler, alors je parle par expérience personnelle, hein, mais à adapter un langage, à augmenter notre capacité patience par 10 000. Et, en tout cas, voilà, on en ressort forcément grandi de ce genre de truc, et c'est total kiff, comme le dit...
Mais ouais, un truc, typiquement, n'importe quel adulte va savoir ce que c'est, enfin si on leur dit atome ou réaction nucléaire, n'importe quel adulte va avoir un peu dans sa tête ce à quoi ça correspond. Non, mais plus ou moins. Non, mais on a déjà entendu parler de centrale nucléaire.
Il n'y a aucun adulte qui va oser dire c'est quoi.
Oui, mais atome, on sait à peu près que c'est une particule élémentaire. Enfin,
non, franchement, je ne suis pas sûre.
Bon, peut-être pas, bon. Mais dans tous les cas, il faut leur... enfin, ils en ont peut-être déjà entendu parler. Là, les enfants, souvent, ils n'en avaient même pas entendu parler, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, il faut, faut revenir vraiment à la base de choses qui, pour nous, sont...
évidentes. Ou...
évidentes, ou ouais, et qu'on utilise tous les jours.
Et qu'ils ont retenu. Je tiens à dire que...
J'espère.
Ah oui.
Et du coup, la volonté, alors, au-delà du kiff, est-ce que c'était pas... je pose une question, je vais aller un peu loin, mais aussi une volonté de ramener un peu... d'ouverture d'esprit, d'accès à la science aussi au niveau des jeunes et des enfants où moi, j'ai l'impression à titre personnel qu'on est dans une société où l'accès à la science n'est pas toujours facilité, notamment pour les jeunes, suivant où on grandit aussi, dans quel environnement. Est-ce que c'était pas cette volonté peut-être d'ouvrir de nouvelles perspectives et un moyen aussi de transmettre des choses là où peut-être que l'école est parfois plus aussi efficace, le service public n'est peut-être plus trop non plus.
C'était ouvrir leur esprit, surtout. Enfin, pas forcément à la science, mais ouais, une ouverture d'esprit. Et...
mais après, effectivement, je pense que les programmes scolaires et l'éducation est fait de telle sorte que c'est assez vertical quand même. Même si ça a tendance un peu à changer, enfin, je pense que les instituts ils font de plus en plus d'efforts pour effectivement, que ce soit un peu pratique, un peu plus participatif. Mais les programmes sont quand même assez cadrés. La preuve, on a voulu rentrer dans les temps scolaires et c'est la croix et la bannière. Parce qu'il faut que ce soit bien réglé. Donc là, effectivement, ils voient, je pense, certaines notions qu'ils vont voir en cours, mais sous un autre angle, avec des domaines très spécifiques. L'astronomie, on n'a jamais eu des cours d'astronomie à l'école, des cours d'informatique sur un capteur, par exemple, comme on a fait, ou de génie civil, encore moins, quoi. Donc effectivement, je pense que ça permet de voir d'autres domaines, tout en restant peut-être sur des notions aussi qu'ils ont déjà vues et qu'ils peuvent creuser. Et là, vraiment, où ils sont maîtres de leur projet, quoi. Typiquement sur un atelier cabane, ils se sont régalés, ils nous ont fait une cabane formidable alors qu'au départ on voulait juste faire quatre murs et ils nous ont fait des tiroirs, des machins, enfin vraiment ils ont été imaginatifs et ils ont vraiment adhéré au projet, quoi. Et t'aurais aimé faire des tiroirs, hein. Ouais, pardon.
Et juste aussi en fait tu parlais, Barbara, du fait que effectivement tous les enfants sont pas égaux par rapport au cadre familial, etc. Et je dirais que c'est plus en fait participer au processus de coéducation. Il y a l'école, il y a les parents. Nous, notre statut, c'est pas celui du maître, c'est pas celui des parents non plus. Du coup, forcément, on va amener quelque chose de différent. Souvent, le mot grand frère est un peu revenu dans nos échanges. Et on est un peu là-dessus, on est un peu sur ce créneau. Je pense que humainement, c'est aussi quelque chose qui est important, au-delà de la dimension scientifique qui est évidente, mais humainement, c'est aussi un des facteurs et un des points positifs de ce projet.
En tout cas, je pense que vous avez bien présenté le projet, que ça donne envie. Bon, les enfants, je pense pas qu'ils nous écoutent, mais peut-être aux parents, que leurs enfants aient accès à ce genre d'activité sur le temps périscolaire. Peut-être aussi que ça donne envie aux étudiants et aux doctorants de venir participer à votre projet. Alors, surtout qu'en plus, je vais le rappeler, hein, vous avez été modeste, mais vous avez quand même eu un prix, déjà. Peut-être que rapidement, il y en a un qui peut dire deux mots sur ce prix, que je ne dise pas de bêtises.
C'était le prix étudiant entrepreneuriat Auvergne qu'on a gagné cette année, en 2017, dans les catégories éducation, économie sociale et solidaire.
Donc un premier prix, vous êtes en train de jouer, de participer pour gagner un deuxième prix. C'est un prix par...
Par une boîte privée qui soutient des associations ou des projets. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Protect Nature.
Protect Nature, voilà. Donc, qui vend je ne sais pas quoi, mais ce qui compte, c'est qu'ils nous donnent 1000 balles si tout le monde vote.
Qui vend un truc écolo. Hein.
Comment ?
On soit d'accord, hein, c'est un truc écolo.
Ouais, c'est pas Total non plus.
Voilà.
Non, mais d'accord. Et puis alors, peut-être, ils ne l'ont pas dit non plus, ils ont quand même amené aussi quelques-uns des enfants avec qui ils ont travaillé à Expo Science, qui est un festival scientifique pour les enfants, notamment cette année au Puy-en-Velay. C'est ça, vous êtes allé au Puy. Je ne sais pas si ce sera reconduit l'année prochaine, mais c'était peut-être.
L'an prochain, c'est un Clermont, donc ce sera d'autant plus simple. C'était une formidable expérience. Ouais.
Donc, bref, un très très beau projet avec des gens très motivés. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes intéressés, vous pouvez évidemment les rejoindre, puisqu'il y a toujours besoin de bonne volonté dans ce genre de projet, besoin de sciences différentes, comme ils ont pu le dire tout à l'heure. Donc, besoin d'un petit peu toutes les forces vives intéressées. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site du projet. Quelqu'un va le dire, je sais que c'est retouralecole.com, mais il y a un tiret fr. Quelque part,
ouais, .fr. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point.
Retouralecole.fr, et vous retrouvez aussi toutes les coordonnées du site sur le site de Doctovergne. Si vous voulez, ce sera peut-être plus simple. Bon, ben, on espère que ça va attirer du monde, et ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause après toutes ces informations pour nous retrouver juste après.
Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais.
Montre-leur que t'es fragile, tu tiens pas deux secondes. Besoin de réconfort? Lève-toi et tombe. Demande à tes nouveaux potes, puis que t'es au top. Ils passent leur temps à te faire la courte échelle en rêvant que tu t'effondres. Tu vois pas qu'ils veulent être toi, même pour quelques secondes. Qu'ils rêvent de fame en priant pour que la tienne retombe. Tu seras du père, toi qui rêvais d'être dans la lumière. Comme si c'est nous qu'allions te faire de l'ombre. Ouais, on est tes potes, mais bon, tu changes de cap. Tu nous mets sur la touche maintenant que tous ces gens te flattent. J'suis pas là pour critiquer ni t'apprendre le rap. Mais t'as retourné ta veste, tous les jours tu changes de sap. Des sacrifices? Tout ce que je vois, c'est qu'à force de prendre le cash, t'as dû prendre le large. J'espère que toute cette merde, ça va finir par te rendre barge.
Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Vas-y, fais la pute, donne-toi en spectacle. Quand tu dormiras dans la rue, tu seras toujours à côté de la plaque. T'auras des crampes d'estomac, mais c'est pas le trac. Quand tes gosses auront faim, essaye de leur jouer de la gratte. Essaye de leur faire un rap, essaye de l'auto-tuner. T'auras jamais aucun fan, essaye de t'auto-sucer. T'es nul, tu vas nulle part, A plus B. Faire semblant d'avoir du talent le rendra pas plus vrai. Petit conte bourgeois, le mur est juste en face, vas-y fonce tout droit. Tu vas te péter les dents ne repoussent pas. N'attends personne puisque personne ne compte pour toi. Bien sûr, tu mérites toutes les insultes. Et tu reviendras chialer mais tu seras plus le bienvenu. Sache que des gars comme toi j'en trouve à tous les coins de rue. En train de dire aux passants qu'ils ont besoin de thunes.
Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais.
Si tu leur demandes l'heure, ils diront qu'il est trop tard. Que la tienne est passée, qu'on ne rattrape pas les retards. Que le chemin qu'ils ont parcouru, t'en as pas fait le quart. Tu te mettras à nu, ils te tailleront des costards. Et si tu demandes ta route, ils diront qu'elle mène à rien. Que la place des gens comme toi se trouve dans les gradins. Ils attacheront tous tes rêves de grandeur à des parpaings. Compte pas sur eux pour te tendre la main.
Ils tourneront tout ce que tu fais en ridicule. Critiqueront tes textes à la moindre virgule. Plus tu seras honnête, plus on dira que tu simules. Prends du recul, comment t'as fait pour devenir aussi nul? Avec le temps, tu finis à part les croire. D'abord tu vas douter, puis tu vas perdre espoir. Un jour tu croises un type avec la même histoire et tu répéteras. Si c'était si facile, tout le monde le ferait.
Qui tu serais pour réussir là? Tout le monde a échoué. Alors je sens très faux, mais vous avez sans doute reconnu le titre des Casseurs Flotteurs, Si Facile. Un titre qui me fait dire que dans la vie, il faut savoir se donner la peine, prendre du temps pour les choses qui en valent la peine. Et c'est le cas des beaux projets comme Retour à l'école qui vous a été présenté juste avant. Donc une fois encore, n'hésitez pas à les rejoindre. Je vous parle de beaux projets et je pense que cette émission en est également un. Et c'est pour ça que j'espère qu'il va perdurer encore longtemps. L'équipe de l'année prochaine commence à se construire et Geoffrey en fera partie. Il vous propose ce soir une avant-première de ce qui vous attend à la rentrée et vous ne serez pas déçus.
Et bah c'est parti pour la minute ESS. Donc pour bien parler d'ESS, on va commencer par un petit Kesako. Puisque cette formule, vous l'avez certainement déjà entendue une bonne dizaine de fois. Et pourquoi ? Puisque l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est un concept que chacun définit un peu à sa sauce. Pour certains, c'est de la philanthropie. Pour d'autres, c'est l'économie des pauvres. Alors on nous explique que c'est aussi une économie plus humaine, mais une économie sérieuse, une économie performante. Bref, tout ça c'est un peu flou. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est en quelque sorte la réunion d'acteurs économiques aux identités bien diverses. On retrouve des coopératives, des associations qui œuvrent pour une économie plus citoyenne. On retrouve aussi des mastodontes de l'économie comme le Crédit Mutuel ou l'Imagrain, qui ont des statuts démocratiques, certes, et aussi une lucrativité dite limitée. Mais on retrouve aussi des sportifs, des écologistes, des artistes, des entrepreneurs. Tout ça pour dire bon courage à celui qui veut définir l'économie sociale et solidaire en 140 caractères. Déjà, partons d'une définition objective de l'économie, comme étant l'ensemble des activités humaines relatives à la production, à la consommation et à la distribution des richesses. En ce sens, nous, à l'Utopie, nous prenons des pratiques économiques qui transforment nos façons de consommer, de produire, d'agir, de décider, vers plus de démocratie, plus d'écologie, plus de solidarité. C'est ça notre conception de l'économie sociale et solidaire. De notre jardin partagé, à notre programmation culturelle, de notre système d'échange local, à nos événements publics, nous sommes guidés par cet horizon transformateur. Donc, tous les mois, cette Minute ESS vous accompagnera l'an prochain vers une compréhension de tous les principes d'économie sociale et solidaire que nous défendons et que nous expérimentations dans nos pratiques quotidiennes.
Merci Geoffrey, que nous expérimentations. Moi, j'ai très envie d'expérimenter l'année prochaine. C'était joliment dit.
T'es vraiment sans pitié.
Toujours.
Un drôle de métier, avec moi embarqué quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, franco. On grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Chasseur de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce aux souffleurs de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froids de lumière. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore. Et encore, et encore. Oh, oh, oh.
une chanson à message encore ce soir avec HK et les Saltimbanques. Devenez-vous aussi des rallumeurs d'étoiles, défendez vos idéaux. La prochaine chroniqueuse défend ses idéaux. Elle les porte assez haut pour aller dans l'espace et elle vous amène avec elle grâce à cette chronique. Vous l'avez compris, c'est le moment de laisser l'antenne à Lucie pour Space News.
Bonjour Barbara.
Bonjour.
Bonjour à tous. Alors je commence par une petite question pour tout le monde. Savez-vous pourquoi on ne peut pas manger de pain dans la station spatiale internationale ?
Non.
Non, pourquoi ? La question... Ah oui, tu fais une réponse à la Lucie.
Ouais, non.
Parce que...
Parce que ça fait trop de miettes.
Oui, merci Olivier.
Je pensais que c'était une réponse à la con.
Ça, c'est pas con en fait.
Voilà, donc c'est à cause des miettes. En apesanteur, les miettes de pain, ou de biscotte d'ailleurs, flotteraient partout et pourraient venir interférer avec les systèmes électroniques, le système d'aération ou encore les yeux des astronautes ou leurs poumons. La seule chose type pain qu'ils sont autorisés à manger, c'est des tortillas. D'ailleurs, dans les vidéos où on voit les astronautes qui se font des sandwichs, ils le font avec des tortillas. Et pendant ma simulation de 4 mois sur Mars, à Hawaï, nous avions un énorme stock de tortillas, j'en ai jamais autant mangé de ma vie.
Ah ouais, il n'y a jamais eu de pain dans l'espace et il n'y en aura jamais ?
Non, il n'y en aura jamais. Enfin, il y en a eu une fois en fait, en 1965, et on a évité la catastrophe de peu. L'astronaute John Young avait embarqué un sandwich au cornet de bif clandestinement lors de la mission Gemini 3.
Ça, c'est du clandestin.
Au bout de 1h50 de vol, il l'a sorti de sa poche et en a offert à son collègue Gus Grissom. Ils ont chacun eu le temps de mordre dedans une fois avant de se rendre compte qu'ils étaient en train de mettre des miettes de partout. Et ces miettes auraient pu provoquer un court-circuit et mettre le feu au vaisseau. Alors, pour vous replacer le contexte, cela se passe en 1965, en plein boom de la conquête spatiale, alors que les Américains n'arrêtent pas de se faire devancer par les Soviétiques. Donc, autant vous dire que le Congrès et la NASA n'étaient pas très contents d'apprendre ça. Notons aussi que le fameux sandwich au cornet de bif avait 2 jours. Donc, ils avaient vraiment peur de rien, les types.
Ouais, alors effectivement, ça donne pas envie. Au-delà des miettes, il faut avoir envie de le manger, le truc. Du coup, est-ce qu'il y a des solutions qui sont actuellement étudiées pour apporter du pain dans l'espace ? Ou est-ce que ce « non, il n'y aura pas de pain dans l'espace » est vraiment catégorique ?
Il n'y aura pas de pain classique. Alors, mais justement, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. C'est parce que depuis 2 semaines, il y a une entreprise allemande qui s'appelle Bake in Space qui fait le buzz parce qu'elle a annoncé être en train de travailler sur une pâte à pain qui ne produirait pas de miettes et une machine à pain spécialement conçue pour l'ISS. Donc, la Station Spatiale Internationale. C'est un projet qui se fait en collaboration avec le Centre Aérospatial Allemand et l'entreprise allemande OHB qui a fabriqué le GPS européen, le système Galileo. Alors, la difficulté majeure réside dans le fait de trouver la bonne texture du pain. C'est un compromis à trouver entre une texture caoutchouteuse et une texture trop dure. En effet, c'est bien beau de produire un pain sans miettes, encore faut-il que les astronautes veuillent bien le manger.
Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt à s'encombrer.
C'est ça. Et surtout, c'est important que... Enfin, si on veut qu'une nourriture soit mangée, il faut que la texture leur convienne aussi. Alors, l'autre difficulté, c'est de fabriquer un four qui soit compatible avec les contraintes de la station. Notamment, il devra fonctionner avec seulement 250 watts, c'est-à-dire 10% de ce qu'un four classique utilise habituellement. Et pour que les astronautes ne passent pas 2 heures à regarder si le pain cuit bien ou s'il est en train de brûler, il y aura des vidéos en direct depuis l'intérieur du four qui permettront à l'équipe au sol de surveiller la cuisson pendant que les astronautes pourront continuer à vaquer à leurs nombreuses occupations quotidiennes.
En fait, il leur faut un sacré four high-tech. Un four, voilà. On remarque que ce serait pas mal. Moi, je fais tout cramer chez moi. Peut-être que je devrais me lancer dans le four high-tech.
Avec des vidéos.
Avec des vidéos, comme ça tu pars faire tes cours, tu reviens, t'as ton pain. Moi franchement, je pense que ça pourrait se développer après.
C'est ça.
Mais au-delà de ça, du coup, quel type de pain dans ces super fours high-tech à 250 watts ?
Eh ben, les pains qui seront produits dans ce four high-tech, ce seront des pains type Brötchen. C'est les petits pains ronds allemands qu'on trouve absolument partout en Allemagne.
Partout en Allemagne, mais vu la tête d'Antoine, nulle part en France.
Ah, moi, je connais pas.
Bah, des petits pains ronds, quoi.
D'accord, enfin, voilà. Ça me va.
Donc, l'expérience aura lieu entre juin et novembre 2018, lors de la mission de l'astronaute allemand Alexander Gerst. Alors, à noter que Samantha Cristoforetti, l'astronaute italienne, avait embarqué une machine à espresso la dernière fois qu'elle est allée sur la station. Donc, on peut espérer que la prochaine fois que Thomas Pesquet va sur la Station Spatiale Internationale, il emmènera une machine pour affiner le Saint-Nectaire.
Alors peut-être comme ça, le Saint-Nectaire ne lui volera pas la vedette, si
Si.
Le pain lui vole la vedette, le Saint-Nectaire, alors bon bah Thomas Pesquet, désolé, il vaut mieux du pain sur Mars que toi.
Flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus et vous venez d'écouter Rocketman d'Elton John. Après ce moment en apesanteur, je vous propose de revenir sur Terre et en Terre auvergnate pour découvrir ce qui se passe dans nos labos et plus particulièrement dans celui d'Iris. Pour ce faire, je laisse l'antenne à Olivier.
Une minute avec...
Bonjour Barbara, bonjour tout le monde.
Bonsoir.
Donc aujourd'hui je reçois Iris Séouzan qui est doctorante en écologie. Bonjour Iris.
Bonjour Olivier.
Alors d'abord, avant d'attaquer ton sujet de thèse, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment t'en es arrivée à faire une thèse en écologie ?
Alors pour commencer déjà, Bon, j'ai eu un peu du mal à me décider au début. Il a fallu que j'aille vers la biologie, puisque c'était ma... c'était vraiment la biologie qui m'intéressait. La thèse, c'est vraiment très tard que j'ai eu l'idée d'en faire une. Tout simplement parce qu'à la base, ce qui m'intéressait, c'était le comportement animal. Et là-bas, c'est très compliqué dans le domaine du comportement animal de trouver des sujets de thèse et même du travail après. Donc j'ai suivi le cursus habituel, licence master, tout en réfléchissant à ce que j'allais faire. Et puis, passé le master, on m'a proposé un sujet de thèse qui était vraiment super intéressant sur les abeilles. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas ? Si on te le propose, c'est 3 ans, c'est très intéressant et ce sera pas perdu. Donc je me suis lancée.
Et donc justement, le titre de ta thèse qui est « Impact des activités humaines à l'échelle européenne sur la diversité et la dynamique des pathogènes associés à l'abeille domestique ». Alors moi, quand je lis ce sujet de thèse, je comprends à peu près tous les mots mis à part,
pas ensemble,
sauf un mot que je ne comprends même pas quand il est pris tout seul, c'est pathogène. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un pathogène ?
Alors un pathogène, c'est un organisme qui va provoquer des maladies chez un autre organisme. Donc par exemple, typiquement, les virus, les bactéries, peut y avoir aussi des champignons qui provoquent des maladies comme nous on peut en avoir. Et donc les abeilles aussi, elles ont des organismes qui vont provoquer chez elles des maladies.
D'accord. Et donc aujourd'hui, les pathogènes, c'est une cause importante de la mortalité chez les abeilles ?
Alors c'est ce qui est en train d'être étudié, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était les pesticides qui étaient responsables de la mort des abeilles. Et maintenant, de plus en plus, on se rend compte que certes, les pesticides ont leur impact puisqu'ils affaiblissent les colonies. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les parasites qui entrent en jeu parce que, tout simplement, y a de plus en plus de maladies qui se développent. Et comme les abeilles voyagent beaucoup, il y a énormément d'importations. Donc forcément, il y a l'importation des parasites qui vont avec. Et du coup, les maladies sont de plus en plus importantes dans les ruchers et provoquent la mortalité des abeilles.
D'accord. Et donc, c'est ces bactéries qu'ont les abeilles, donc c'est ce qu'on va appeler les microbiotes. Le microbiote, c'est bien ça ?
Oui.
Et du coup, c'est ce que tu vas étudier. Et pour quelles raisons tu vas te focaliser sur l'étude du microbiote ?
Alors, quand on parle de microbiote, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Dans le microbiote, il y a les pathogènes. Donc, on va retrouver des virus qui vont être néfastes, qui vont provoquer des maladies. Mais comme chez nous, il y a aussi beaucoup de bactéries qui sont présentes, mais qui ne sont pas responsables de maladies. Et comme dans n'importe quel organisme, les abeilles ont énormément, notamment dans les intestins, énormément de virus, de bactéries qui sont là, mais qui ne provoquent pas de maladies. Et nous, si on s'intéresse à ce qu'il y a là-dedans, c'est parce que l'évolution du microbiote va varier selon l'environnement de l'abeille. Donc, selon si l'abeille se porte bien ou pas, le microbiote va évoluer. C'est comme nous, quand on est malade, on n'a pas forcément le même microbiote dans les intestins que quand on se porte bien. Et donc, l'étude en approfondie de ce microbiote va nous permettre de comprendre ce qui se passe vraiment dans les abeilles au fil du temps.
D'accord. En fait, c'est un microbiote, c'est un peu un indicateur de la santé générale de la colonie des abeilles, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Après, il varie beaucoup selon les abeilles, selon les colonies. Mais quand on fait l'étude du microbiote, moi, je regarde par exemple, en ce moment, là, je suis en plein dans les virus. Donc, je regarde quels sont les virus présents dans nos abeilles. Et selon s'ils sont à taux faible ou pas, on pourra parler de maladie ou pas. Et donc, je fais l'étude au fil du temps de ces virus. Et à partir d'un certain seuil qui a été défini par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à partir d'un certain seuil, on parle de maladie pour les abeilles.
D'accord. Et donc, pour étudier ce microbiote, comment tu vas t'y prendre ? Est-ce que tu prends des abeilles qui sont élevées à laboratoire ? Est-ce que tu prélèves des abeilles dans des ruches qui sont élevées à l'extérieur de manière naturelle ? Tu fais des prélèvements ? Est-ce que tu les étudies au microscope ? Comment ça se passe concrètement, en fait ?
Alors, dans les laboratoires, on trouve de tout, évidemment. On trouve des laboratoires qui vont faire qui vont élever les abeilles directement dans le laboratoire. Nous, on utilise un autre système, parce qu'on veut travailler sur les colonies d'abeilles classiques, donc celles qu'on va trouver chez les apiculteurs. Du coup, on va chez les apiculteurs tous les mois. Donc, par exemple, on a plusieurs sites d'études, on en a 7 au total. Et il y en a un, par exemple, qui est à Pont-au-Mur, donc pas loin d'ici, à 1 heure de route à peu près. On y va une fois par mois. On regarde comment vont les ruches, donc si elles ont l'air de se porter bien, si on a beaucoup de mortalité ou pas. et on fait des prélèvements d'abeilles. Donc on récupère à peu près une cinquantaine d'abeilles qu'on place au congélateur. Et après, oui, je suis désolée, on tue les abeilles. On n'a pas encore trouvé de moyen de juste leur demander est-ce que vous avez des virus ou pas, répondez, tapez trois fois si vous en avez beaucoup. Donc pour l'instant, on est obligé de les tuer pour avoir la réponse. Et donc du coup, on fait les analyses après. Donc on a plusieurs types d'analyses. Moi, j'en utilise deux en particulier. La première, c'est une analyse ciblée, c'est-à-dire on sait ce qu'on cherche. On a un certain nombre de parasites qu'on sait qui sont très, très néfastes pour les abeilles. Donc on va chercher ces parasites-là en particulier. Et pour ça, c'est des techniques d'amplification de l'ADN. On fait une recherche de l'ADN du virus ou de la bactérie. Et après, il y a une autre technique que je vais mettre en place prochainement, dès que j'aurai réussi à m'en sortir déjà avec la première, où on va chercher, mais sans cibler un parasite en particulier. C'est-à-dire, on regarde en gros tout ce qu'il y a comme parasite. On fait passer l'intestin d'abeille dans une petite machine qui va nous dire combien il y a de bactéries, combien il y a de virus. Et après, bah, ça nous permettra de voir s'il y en a qui sont très très chargés. On regardera éventuellement au microscope électronique pour essayer de voir si on peut identifier visuellement ces parasites et essayer de les reconnaître.
D'accord. Et donc là, tu parlais des ruches que tu vas chercher à Pont-au-Mur. Est-ce que tu prends uniquement des abeilles auvergnates ou est-ce que c'est une zone d'étude qui est plus élargie ?
Alors, on n'est pas si chauvin que ça. On ne va pas travailler uniquement en Auvergne. Le projet a débuté ici, mais il se fait entre différents pays. Donc, notamment, on a un site d'étude à Gif-sur-Yvette, à côté de Paris. On en a un à Chizé. Il y en a un au Pays Basque et deux sites au Portugal. Et du coup, on va faire les analyses sur l'ensemble de ces sites-là. Donc, les Espagnols, les Portugais nous envoient leurs abeilles et je fais les analyses dessus.
C'est plus facile de les envoyer congelées, du coup.
Oui, du coup, oui.
Et donc, pour revenir un peu sur le titre de ta thèse, donc tu vas regarder, d'après le titre, l'impact des activités humaines donc sur la diversité et la dynamique des pathogènes. Est-ce que tu as déjà un peu des résultats ou des intuitions sur quels sont les facteurs qui sont positifs, négatifs, qui vont impacter sur cette dynamique des pathogènes ?
Alors déjà, en ce qui concerne le titre de la thèse, ça c'est le titre officiel qui est sorti du coup il y a un an et demi quand j'ai commencé ma thèse. Il va être amené à changer parce que pour l'instant, on s'est rendu compte très rapidement que l'idée d'aborder, de parler d'impact des activités humaines, c'était totalement faux parce que nous, on travaille uniquement sur des ruches qu'on essaye de laisser le plus au naturel possible, c'est-à-dire qu'on impacte, à part une fois par mois quand on vient faire le relevé, puis les apiculteurs, bien sûr, ils agissent sur leurs ruches comme d'habitude, ils les nourrissent l'hiver s'il y a besoin, etc. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de notion d'impact des activités humaines, parce qu'on ne va pas travailler sur des ruches qui sont en ville, par exemple, on ne va pas travailler sur des ruches qui sont près de champs, on ne fait pas de comparaison par rapport à des ruches dans la nature et des ruches près des zones d'habitation. Donc après, en ce qui concerne ce que nous, on espère comme résultat, en fait, il faut savoir qu'on regarde d'autres paramètres en plus des parasites. On regarde dans les ruches quelle est l'évolution de l'humidité, parce que les abeilles sont capables de réguler l'humidité. Là, par exemple, il fait très chaud. Là, aujourd'hui, on a eu quasiment 40 degrés. Les abeilles, à 40 degrés, c'est trop chaud pour elles. Donc, il faut qu'elles soient capables de réguler à la fois la température et à la fois l'humidité. Et donc, on regarde ça. On a des capteurs qui relèvent l'humidité et la température tous les jours, toute l'année, dans chacun des sites d'études. Et on fait une comparaison entre ces données récupérées et l'évolution du microbiote des abeilles, donc des virus et des bactéries qu'on peut trouver dedans. Et nous, ce qu'on espère, c'est trouver une relation quelconque entre l'évolution de cette température, de cette humidité et la présence de parasites. Donc on imagine par exemple que des abeilles qui se portent très bien et qui sont tout à fait capables de maintenir l'humidité et la température très très stable toute l'année vont être des abeilles qui auront peut-être moins tendance à tomber malade, alors que des abeilles dont la température passe à 40 degrés en pleine journée et tombe à 15 degrés la nuit, toutes ces grosses variations de température vont provoquer un chamboulement dans la colonie, un affaiblissement de la colonie et donc l'arrivée de parasites. Et par exemple, les champignons, vous n'êtes pas sans savoir que les champignons aiment la chaleur et l'humidité. Donc on imagine que dans les ruches où les abeilles ne sont pas capables de réguler correctement et où il fait chaud et humide, on aura peut-être plus de développement de champignons.
D'accord. Et du coup, en fait, l'objectif in fine, ça va être en gros d'arriver à aider un peu les apiculteurs sur les techniques qu'ils doivent utiliser ou comment faire attention ou comment prévenir peut-être sur le danger qu'il y a pour la population de leurs abeilles.
Alors oui, parce qu'actuellement, en fait, les apiculteurs, ils voient qu'il y a un problème dans la ruche à partir du moment où ils trouvent des tas d'abeilles qui sont mortes devant leur ruche. Ce qui pose relativement un problème, parce que quand la maladie est déclarée, quand ils se rendent compte qu'il y a un problème, c'est quand ils voient toutes leurs abeilles qui sont mortes. Donc ce serait bien quand même de pouvoir réagir un tout petit peu avant pour que l'apiculteur il puisse réagir, déplacer ses colonies s'il voit que, bah, par exemple, elle a pris froid et donc du coup, c'est pour ça qu'elle se porte mal. Par exemple. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de trouver des schémas classiques, des modélisations où on puisse simplement dire aux apiculteurs, bon bah voilà, d'après ce que moi j'ai étudié, d'après les études d'Iris et Ouzan, on peut dire que avec une humidité qui est aussi élevée et telle température, vous avez un fort risque d'avoir ce parasite-là, donc faites attention. Et maintenant, en fait, il y a énormément de colonies connectées, entre guillemets, qui se vendent, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes avec des balances et des capteurs, exactement comme nous, on en utilise, qui se vendent. Donc les apiculteurs, ils reçoivent directement sur leur téléphone ou sur l'ordinateur les données de température, d'humidité. Comme ça, ça leur évite d'aller de sortir trop souvent. Ça leur permet de voir directement ce qui se passe dans la colonie sans forcément avoir à l'ouvrir. Et du coup, grâce à mes données, si ça se passe bien, puis bon, c'est forcément, moi, c'est la première fois qu'on fait ça, donc il va y avoir encore d'autres analyses derrière. Mais grâce à notre travail, ça leur permettra de voir très rapidement s'il y a un problème dans la colonie, juste en regardant leur ordinateur et en regardant les courbes de température et d'humidité.
Très bien. Eh bien, je te remercie Iris, donc l'interview prend fin. Je te souhaite bon courage pour la suite dans ta thèse. Et on va de suite écouter une chanson qui reste un peu dans la même thématique, puisqu'il s'agit l'hymne de nos campagnes de Trio.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes,
montagne de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'est sur cet hymne de nos campagnes, qui n'est pas tout à fait celui des campagnes électorales que nous avons suivies ces dernières semaines, qu'il est déjà l'heure de nous quitter. Merci à tous d'être venus partager la science ce soir, et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir passé un moment en notre compagnie. C'est toujours un plaisir. Et ce plaisir n'a pas de limite, car vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de la radio, www.campus-clermont.net, sur leur appli mobile, sur le site de DoctoVergne, www.doctoverne.fr, sur le Facebook de l'association ou même en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bref, un plaisir sans limite, varié et partagé. Que demander de plus ? Eh bien, une prochaine émission. Pour ça, je vous donne rendez-vous le 5 juillet pour la dernière de la saison. Et d'ici là, soyez patients et profitez du plaisir en ligne.
Vous venez d'écouter Quad Doc, l'émission de DoctoVergne.